Dan Mag. Ti comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Bonjour Titane. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent.
Bonjour Dominique.
Nous nous approchons du printemps, quelques signes annonciateurs qui ne trompent pas, joyeuse perspective d'une éclosion de la nature, chaque année ce même bonheur d'un moment où tous les espoirs semblent à portée de main. Aujourd'hui, c'est un musicien qui vient à nous partager sa passion d'une musique en permanente recherche de qualité, de vérité et d'envie de partage. La musique qu'il pratique et qu'il enseigne s'enracine très loin dans les fondements de notre histoire, cherchant à redonner vie à tout un pan de notre patrimoine culturel qui ne demande qu'à s'exprimer, pour peu que des chercheurs comme lui se donnent la peine d'explorer et de transmettre. La musique dont vous allez nous parler est une musique qui se découvre des parentés, des affinités avec d'autres musiques, parfois fort lointaines. Nous allons parler de musique traditionnelle, les initiés disent musique trad. On a pu également dire avec un brin de condescendance musique populaire, ayant définitivement éliminé de notre vocabulaire, et c'est tant mieux, le mot folklore. Bonjour Jean-Philippe de Peretti. Vous êtes né à Marseille, une ville qui cultive les échanges entre cultures, une ville où lorsqu'on rencontre des musiciens dans la rue, on n'hésite pas, lorsqu'on est un des leurs, à se joindre à eux. Au départ, vous pratiquez une musique plutôt anglaise, funk, jazz. Vous découvrez le rock progressif dans les années 70, Led Zeppelin, Pink Floyd. Puis il y a le conservatoire, vous n'y trouvez pas ce que vous attendiez. Vous n'avez pas 30 ans et vous vous retrouvez à Lyon, vous découvrez la guitare acoustique. À l'École nationale de musique de Villeurbanne, votre maître vous initie à la musique arabo-andalouse, la musique grecque, turque, la musique du Maghreb et de l'Arabie saoudite, celle de l'Espagne, bien sûr. J'aimerais commencer par cette première question. Est-ce que c'est important, quand on a décidé de consacrer sa vie à la musique, d'avoir eu un maître qui va vous ouvrir un chemin ?
Je pense que c'est effectivement important, et surtout important d'avoir eu cette chance inouï de rencontrer un maître comme celui-ci et peut-être d'autres aussi dans son parcours initiatique durant toute sa vie. On peut être aussi son propre maître à un moment donné, mais il faut bien à un moment donné qu'on nous éclaire un petit peu sur le chemin.
Et comment s'appelle ce maître ?
Marc Loupouit.
Et que faisait-il?
C'est une personne assez atypique, je ne vais pas parler de lui en détail, mais c'est une personne qui a parcouru énormément et travaillé énormément sur le terrain pendant 30 ans avant de se dire un jour, et un beau jour, je vais enseigner. Voilà, je vais essayer de transmettre à mon tour ce qu'on a pu m'apprendre. Et ça, je trouve que c'est très important comme idée de départ.
Qu'est-ce qu'on entend par musique traditionnelle ?
Ah, vaste sujet, je suis pas la bonne personne pour y répondre, je pense, mais bon, qu'est-ce que ça peut être musique traditionnelle? À mon sens, c'est la musique d'une tradition qui unifie des gens dans un village, dans un lieu-dit, dans une commune, et ces personnes, par des us et coutumes nécessaires au départ pour vivre aussi au quotidien, permettent de perdurer cette tradition. À mon sens, c'est ça la tradition. Qu'elle soit musicale ou d'autres esthétiques. Hein, voilà. Maintenant, il y a certainement des ethnomusicologues ou des gens de profession qui vont bien définir le mot tradition ou le mot folklore, mais ce n'est pas mes propos.
Et ce que nous venons d'entendre, le morceau d'entrée, comment s'appelle-t-il et où le classe-t-on ?
Alors, c'est une adaptation d'une mauresque, d'une danse, on va dire, guerrière du XVIIe, XVIIIe siècle, que j'ai réadaptée au sistre corse, qui prend empreinte sur la tradition, bien sûr, sur une tradition en tout cas, à une période donnée. Cette tradition étant, avec les âges, diluée dans le temps, réadaptée, revue, corrigée en fonction des émotions de chacun. La tradition que vous avez écoutée aujourd'hui, elle est propre à ce lieu, l'interprétation est propre à ce lieu. On peut aussi dire que la tradition, c'est ça.
Et est-ce que ces musiques, comme celles que vous venez d'interpréter, ont été écrites ou est-ce uniquement à l'oral ?
C'est une bonne question qu'on peut tous se poser, effectivement. Est-ce qu'elles ont été écrites ? Dans la définition de tradition, il y a tradition orale, à mon sens, pour moi en tout cas. La première valeur d'une tradition, c'est qu'elle se communique par l'oralité, sans barrière, sans contrainte. Ce qui fait aussi sa force, mais sa faiblesse. Voilà. Donc, il y a quelques traditions qui ont certainement dû être écrites à un moment donné, pour ne pas les perdre. Parce que certainement, on avait peur de les oublier, puisqu'on avait changé de tradition, hein, de façon de vivre. Mais au départ, la tradition, pour ce que j'en sais, est orale. Voilà.
Alors, vous dites que vous n'êtes pas une personne la plus qualifiée pour définir la musique traditionnelle. Comment est-ce que vous qualifiez la musique que vous essayez de pratiquer et que vous essayez de faire partager à ceux qui vous rencontrent ?
Je ne me suis jamais posé cette question. La qualifier, je pense que c'est la musique qui traduit nos sensibilités du moment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, donc ma musique à moi, c'est une musique beaucoup plus métissée, colorée, qui est emprunt à beaucoup de filières musicales ou de cultures musicales au travers de différents pays ou de différentes régions. Ce que j'essaye de faire, c'est plutôt une synthèse de tout ça, inconsciemment, il faut bien le dire au départ. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que ces musiques sont finalement pas tellement diffusées par les médias habituels ? Il faut aller les chercher ou il faut chercher des festivals un petit peu spécialisés ? Comment vous voyez la situation ?
Sans revendiquer le droit à la diffusion. Effectivement, c'est des créneaux qui ne sont peut-être moins porteurs que d'autres parce qu'il n'y a pas cet effet d'émulation de groupe ou de masse. Les médias, bon, ils font ce qu'ils peuvent aussi, mais ils ont aussi des objectifs à tenir ou des contraintes. Donc, c'est vrai que c'est des musiques, sans parler de ma musique, mais des musiques traditionnelles au sens large, qui sont peu diffusées, mais avec le phénomène de la world music, où il y a un amalgame de beaucoup de choses à l'intérieur, elles arrivent quand même à exister. Et elles arrivent beaucoup à intéresser les gens un petit peu curieux, ou qui viennent par hasard écouter un concert ou un bal, ou voilà. Mais elles ne sont pas assez diffusées à mon sens, effectivement.
Est-ce que vous pourriez nous raconter la révélation que vous avez de la véritable nature des polyphonies corses? Un jour, vous allez à un concert d'Affiletta et qu'est-ce qui se passe?
Ben écoutez, effectivement, c'est le fruit d'un hasard. En Corse, une soirée d'été, j'avais envie d'écouter ce fameux groupe de polyphonie, des voix égales, des voix d'hommes, à Villette, à Calvi. Et malheureusement, je suis arrivé un peu en retard, il faut bien le dire. Et surtout, c'était plus que plein. Donc ça, je ne l'avais pas prévu. Hein. Et donc, j'essaye de faire un petit peu des pieds et des mains pour pouvoir quand même rentrer, malgré tout, parce qu'il n'y avait plus de place. Et bon, très conciliante, la dame à la billetterie me propose d'aller dans le chœur où Avilette a été positionnée pour chanter, mais derrière le groupe, bien sûr, pas devant la scène. Et donc, j'ai vécu le concert plus d'une heure et demie de chants polyphoniques variés, traditionnels, liturgiques, sur un des côtés du chœur. Et ce soir-là, j'ai eu, pendant tout le concert, j'ai été transpercé par les voix, par les sons, par les vibrations. Ça a été vraiment un moment très, très fort.
Et est-ce que vous chantiez déjà avant?
Non, du tout. Non, non.
Alors comment avez-vous commencé à chanter?
C'est, je pense, directement suite à ce concert-là. J'avais envie, pendant quelques années, je me suis posé la question, tiens, c'est intéressant la polyphonie, je retrouve des éléments directeurs de ce que j'aime dans les musiques. J'avais peut-être aussi envie de chanter depuis pas mal de temps, mais je me cachais aussi, il faut bien dire, derrière mes instruments. C'était plutôt confortable pour moi comme situation. Et puis un jour, en revenant de Corse à la rentrée de septembre, j'ai essayé de trouver dans la région de Rhône-Alpes s'il n'y avait pas des chœurs d'hommes, et notamment des polyphonies corses. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé quelques passionnés avec qui on a monté un premier chœur d'hommes. Et de là est partie l'aventure des polyphonies.
Alors, il y a la voix qui est un instrument. Et quels sont les instruments utilisés? Comment peut-on les trouver? Est-ce que c'est encore une fabrication artisanale du pays qu'on trouve uniquement en Corse?
Pour parler des instruments en Corse, oui, de la tradition, effectivement, c'est pas dans les grands magasins de musique, on est bien d'accord, c'est souvent des luthiers qui réadaptent des instruments perdus ou disparus, pour la plupart. En Corse, il y a quelques instruments dits de la tradition, des flûtes en corne de chèvre, en roseau, donc de berger. Hein. Il y a le triangle, le violon, un peu plus tard l'accordéon diatonique qui est venu s'implanter, après la mandoline et la guitare, bien sûr, mais ça, ce n'est pour moi plus de la tradition au sens actuel. Hein. Ça le deviendra peut-être dans quelques centaines d'années, on ne sait pas. Et puis il y a ce fameux instrument que je vous ai fait entendre, qui est le sistre corse, qui est un instrument issu de la Renaissance italienne, certainement. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'organologie et de l'histoire des instruments et de leur migration, mais quoi qu'il en soit, on retrouve bien ces instruments dans les musiques italiennes de l'époque. Donc l'instrument que je vous ai fait entendre a 8 cœurs. Il en existe à 4 cœurs, à 5 cœurs. Chacun avait ses spécificités. Et à la base, c'est un instrument pour faire danser. Voilà, c'est un instrument pour interpréter des danses.
Je voudrais revenir sur ces fameuses polyphonies corses et poser une question de quelqu'un qui est complètement profane. Mais quand on voit des cœurs d'hommes ou de femmes, ils ont un geste en direction de leurs oreilles. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de ce geste ?
Bah écoutez, si je veux rester sérieux, c'est un geste très pratique. Ça reproduit en fait l'effet d'une conque naturelle, un genre d'amplificateur naturel. Il faut savoir que quand on chante en voix égale dans une polyphonie corse, on est très peu de chanteurs. On est 3, voire 4, voire 5. S'il y a des polyphonies un peu plus sophistiquées de musique de film, on peut être 6, 7, mais pas plus. Donc on chante en cercle, quasiment fermé. Et le son que l'on cherche, c'est un son de résonance commune qui est au milieu du cercle, en fait. Et pour pouvoir parfaire ce son et ces résonances qui vont créer des harmoniques, des sons naturels, on a besoin systématiquement de s'ajuster nos voix les unes par rapport aux autres. Donc ce résonateur permet de quelque part de boucher presque une oreille pour entendre sa voix, et de l'autre oreille on entend le son du groupe, le son commun. Voilà. Après il y a d'autres versions. Je vous laisse imaginer.
Alors, ce chant, bien sûr, il se pratique en utilisant, en ayant recours à la langue corse. Je peux imaginer, bien que ne le sachant pas, que la langue corse, comme d'autres langues régionales, n'est pas en voie d'expansion. Est-ce que ça peut poser des problèmes concernant la pratique de ce chant ?
Oui, effectivement. Moi, j'ai des problèmes, parce que je ne suis pas né en Corse, je n'ai pas parlé couramment cette langue, je ne l'ai pas pratiquée au quotidien. Donc j'ai pas, si vous voulez, le bagage dans l'oreille des sonorités traditionnelles au départ. Je ne suis pas né avec ça. Je suis venu le chercher bien plus tard, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, étant de famille corse. Donc il a fallu réapprendre, ou apprendre en tout cas, cette langue du mieux que l'on peut, qui est une langue effectivement en voie de disparition, j'espère pas, mais qui a tendance quand même à disparaître dans la mesure où elle est de moins en moins pratiquée au quotidien. Puisque la tradition au départ servait la langue aussi. Les traditions étant de moins en moins pratiquées, puisqu'on vit différemment aujourd'hui, la langue aussi, dans son usage premier, tend à disparaître. Donc ça peut être effectivement un problème au départ de ne pas parler la langue. Sachant que les polyphonies corses sont pratiquées en Corse, en langue corse, mais dans d'autres dérivés de la langue corse. Bon, il y a le latin, bien sûr, pour la liturgie. Il y a la langue crusca, qui est une langue corse très poétique, qui était pratiquée aussi à Venise. Il y a le toscan, il y a le génois. Donc voilà, il y a différents dérivés.
Qu'on trouve en Corse en ce moment ?
Qu'on trouve dans les chants, en tout
dans
cas.
Les chants.
Dans les chants.
Dans les chants.
Dans la pratique quotidienne corse, on a essayé d'unifier une langue entre le nord et le sud,
oui,
qui est une langue maintenant enseignée, hein, dans les petites classes. Voilà. Mais ce n'est pas une langue des caractéristiques de toutes les régions de Corse.
Est-ce qu'on enseigne aussi dans ces classes le chant corse ?
Écoutez, le chant en Corse, je pense que c'est quelque chose qui est inné dès la naissance. Voilà, on l'enseigne pas, mais tout le monde chante en Corse. Je pense qu'en Méditerranée, beaucoup de civilisations, de régions chantent naturellement. En tout cas, en Corse, on l'enseigne pas, particulièrement dans les conservatoires, mais tout le monde chante des chants traditionnels, que ce soit des chants de berger, de la tradition, ou des chants liturgiques. Voilà, on n'a jamais fait la séparation entre les deux.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Jean-Philippe de Peretti qui a choisi pour nous un morceau de musique qui est...
Après bière.
Et c'est un peu plus, pour en savoir un peu
c'est
plus.
C'est un morceau traditionnel qui a été revu par Petru Galfucci, qui est un très très grand chanteur corse, avec son ensemble de polyphonie, et qu'il a réadapté un petit peu au goût du jour pour une écoute et une oreille actuelle. Voilà. Et donc ce morceau décrit par le texte le rituel du battage du blé.
Alors il y a une tradition de corps d'hommes, de corps de femmes aussi. Est-ce que parfois les corps se mélangent? Et y a-t-il des différences de répertoire entre les deux?
Oui, c'est une très bonne question. Dans la tradition, les femmes chantaient aussi, chantaient beaucoup. Mais officiellement, elles chantaient plus les comptines, les berceuses, et puis tous les chants un peu funèbres, les lamentos et les voceros lors d'un décès d'un proche de la famille.
Voilà. Et les hommes?
Les hommes chantent des messes ou chantent au comptoir des chants traditionnels qu'on appelle la padiel, donc le chant vraiment en corse, la signature corse du chant traditionnel. Voilà, donc chant de berger, des madrigaux, des terzettes, tout ça vient de l'Italie, bien sûr.
Est-ce qu'on peut dire, hormis la question de la musique religieuse, que ce sont des chants de la ruralité?
Oui, c'est des chants essentiellement de la terre.
On n'a pas cette pratique en ville, c'est impensable.
À l'époque, oui, il y avait très peu de grosses villes, hein, comme maintenant. Enfin, tout est relatif, mais il y avait essentiellement des villages, et des villages qui étaient enclavés. Donc, c'est des pièves et des petites micro-régions. Et dans la micro-région, se créait une culture, une tradition propre à cette micro-région, même dans le langage.
Est-ce que, quelque part, il y a des traces écrites de... toutes ces chants de est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Est-ce que quelqu'un a déjà commencé à le faire? Est-ce que
il y a une prise de conscience après la guerre, dans les années 50-60, où il y a eu du collectage? Il y en a eu un petit peu avant, mais bon, les supports de collectage étaient plus hasardeux, plus difficiles, hein. C'était des rouleaux de cire, Donc ensuite, il y a eu du collectage, mais bon, les deux guerres que l'on connaît, hein, ont fait quand même beaucoup de ravages et ont aussi supprimé beaucoup de mémoire, hein, ont effacé beaucoup de traces. Donc malheureusement, le collectage a été difficile.
Et est-ce que vous faites aussi du collectage?
Ça m'arrive, oui. En tant que... passionné, nouveau passionné, je m'intéresse beaucoup plus à aller puiser à la source, en tout cas essayer de trouver des sources et des chanteurs de la tradition qui n'ont pas d'après dans la façon de chanter, qui ne se posent pas de questions, qui n'intellectualisent pas le chant, qui chantent comme ils respirent. Voilà.
Vous allez chez les anciens et...
trouver, oui, il en reste de moins en moins, hein, bien sûr, mais quand il en reste quelques-uns, on essaye d'approcher ces personnes et d'être patient aussi pour qu'ils puissent nous délivrer à un moment donné de leur moment un chant. Voilà. Mais le chant ne vient pas spontanément, hein. Il faut bien qu'il y ait une confiance qui s'instaure pour ensuite partager.
Un petit vin corse?
Ça peut aider, ça aide en général, mais ça ne suffira pas.
Et est-ce que dans ces chants, vous avez les paroles? Est-ce que tout cela peut être interprété différemment? Enfin, c'est un peu ce que vous avez expliqué, selon le lieu où se trouve la personne. Enfin.
On a effectivement les paroles, donc les corsophones arrivent à mieux comprendre que moi certaines subtilités du chant traditionnel. Il y a toujours un double message dans ces chants. L'orthographe aussi est assez complexe parce que ce qui est écrit n'est pas ce qui est parlé. Hein. Bon voilà, donc je vous passe toute la technique grammaticale, mais effectivement il y a un message qui est assez fort et qu'il faut capter.
Avec parfois des sons différents.
Tout à fait.
La même parole, voilà. Les mêmes paroles, mais
c'est ce qui fait l'intérêt. C'est ce qui fait l'intérêt, effectivement, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. C'est les sonorités, puisque le mot est un son.
Alors, on en arrive, si vous permettez, à une autre source d'inspiration pour vous, pour votre pratique de la musique, peut-être votre recherche également, c'est le flamenco. Est-ce que la guitare sèche, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bah, disons que j'ai essayé, avant de m'intéresser plus à mes origines, il y a une quinzaine d'années, j'ai essayé de parcourir un chemin venant de la guitare rock et de la musique rock des années 70. Un peu las des scènes actuelles que je voyais, j'ai essayé de parcourir un autre chemin qui était plutôt un chemin de tradition, de son acoustique, de son plus proche des gens. Et le flamenco m'a toujours interpellé, passionné. J'ai effleuré ce style avec beaucoup de passion, mais j'ai été quand même assez obligé de me faire à une raison qui est comme pour le chant corse, si on ne vit pas dans le jus, si on ne baigne pas dans ce jus-là, on passe à côté de l'essence même de ce chant et de la tradition flamenque. Voilà. Donc j'en écoute beaucoup, j'en pratique un petit peu, très modestement, mais je suis plus allé dans ma direction de mes origines, qui est le chant corse.
Et alors, est-ce qu'il en est de même pour la musique arabo-andalouse ?
Alors c'est une musique qui est plus... Comment dire, que j'ai apprise avec Marc Lopuit. Donc j'ai eu un maître qui m'a enseigné au quotidien cette musique, donc j'ai pu la capter un peu plus facilement. C'est une musique que je joue encore avec des musiciens marocains notamment, qui me parle indirectement et qui me ressemble un peu plus, parce que il faut bien dire qu'elle a des gros points communs avec le chant corse.
Est-ce que pour vous, la notion de Méditerranée, de bassin méditerranéen, sur le plan musical, a une importance, une existence réelle ?
Ah bah oui, c'est mes origines, c'est mon langage. Les parfums, toutes les musiques, ça me parle. Hein. Dès que j'entends un son méditerranéen, quel qu'il soit, je me retrouve dans ces références-là, tout à fait. Ouais.
Ouais. Est-ce que vos parents chantaient ?
Mon père, oui. Mon père, je vous ai dit, les corses chantent. Ma mère aussi, elle chante. Je l'oublie, mais non, elle chante. Oui, il chante. Il chante pas les mêmes répertoires, hein, mais il chante, effectivement.
Et voici notre coup de cœur des lecteurs avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions, complices de nos découvertes, avec le porte-parole Dominique Molin. Et merci Dominique de nous conter votre choix à nous faire craquer l'ossature.
Voilà, je vais parler d'un roman italien, La vie à côté, de Maria Pia Velediano. C'est un premier roman, un bouquin de 213 pages qui est paru chez Stock en 2013. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née laide. Rebecca, depuis sa naissance, est laide, très laide, et du coup, elle reste chez elle. Son père, qui est médecin, plutôt que de s'occuper d'elle, préfère rentrer tard de son travail. Sa mère se désespère. Elle doit s'inventer petit à petit une vie différente jusqu'au jour où sa tante vient s'établir à la maison et entreprend de s'occuper d'elle. Je n'en dis pas plus, il faut se laisser prendre par la main et faire confiance à l'auteur qui signe là donc son premier bouquin. Un livre qui surprend, mais pas là où on l'attendait. Petit à petit, la cruauté d'une telle souffrance cède le pas à cette envie qu'a le personnage central de comprendre ce qui se passe autour d'elle. En outre, Rebecca possède un formidable talent de musicienne, d'interprète d'abord et de compositrice. La suite appartient à la lecture. Alors si vous voulez bien deux extraits, l'un pour essayer de faire, parce qu'on ne peut pas imaginer ça, toucher du doigt, qu'est-ce que c'est que naître laide. Et puis le second qui va peut-être nous évoquer, c'est le moment aujourd'hui, la musique. Une femme laide est incapable d'exprimer ses propres désirs. Elle ne connaît que ceux qu'elle peut se permettre. En toute honnêteté, elle est incapable de dire si elle préférerait une robe moulante rouge carmin au décolleté de velours à la robe bleue parfaitement passe-partout qu'elle porte lorsqu'elle va au théâtre. Ce théâtre où elle choisit systématiquement le dernier rang, arrivant à la dernière minute, juste avant que l'on éteigne les lumières, et toujours en hiver, pour mieux se cacher sous son chapeau et son écharpe. Elle ne sait pas non plus si cela lui plairait de manger au restaurant, d'aller au stade, d'accomplir le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, de se baigner à la piscine ou au bord de la mer. Le choix qui s'offre à une femme laide est tellement limité qu'il en étouffe le désir, car il ne s'agit pas seulement de tenir compte de la saison, du temps qu'il fait ou de l'argent, comme pour tant d'autres, il s'agit de vivre en permanence sur la pointe des pieds, en équilibre, sur la crête du monde. Je suis laide, vraiment laide. Et puis donc, bon, l'histoire avance, mais je ne veux absolument pas la dévoiler, parce que c'est un bouquin où il y a un suspense évident, il faut le préserver. Alors donc, cette Rebecca a grandi, elle va au conservatoire, elle fait de la musique, et puis elle arrive à découvrir où son professeur habite, et donc je tombais en arrêt devant la grille, par les fenêtres fermées, le piano laissait entendre une musique que je ne reconnaissais pas. Je n'aurais su dire qui en était l'auteur ni l'interprète. Ce n'était pas le toucher de mon maître, impossible à confondre, brillant, avec une légère tendance inconsciente à former de longues vagues sonores. Une tendance à peine perceptible, car bien qu'il respectât chaque indication d'interprétation de la partition, les phrases musicales s'élevaient et s'abaissaient comme pour reproduire le balancement d'un berceau que, bien entendu, il ne percevait pas. La musique que j'entendais de la rue était au contraire pleine d'assurance, sans hésitation, mais désordonnée. On comprenait que la durée des notes n'était pas comme elle aurait dû, à peine un peu plus longue ou un peu plus courte. On était tenté d'interrompre la mesure et de remettre les choses en place. Ce n'était pourtant pas les errances du débutant. Il y avait une sorte de logique. En outre, cette musique était sans fin. Il n'y avait ni mouvement, ni pause. C'était un jeu par à-coups autour d'un thème de base précis, bien qu'il ne soit jamais formulé. Il y avait quelque chose d'envoûtant, car les phrases promettaient, note après note, une fin qui n'arrivait pas. Je restais longtemps devant la grille avec l'écharpe qui volait autour de moi à cause du vent, mais la musique ne s'arrêtait pas. Voilà, alors derrière cette musique qui était à la fois très belle et puis qu'on sent un petit peu anormale, mystérieuse, eh bien il y a des choses que Rebecca va découvrir. Mais pour ça, il faut lire le livre.
On a bien envie, mais combien de femmes, n'est-ce pas, Dan, se disent laides, ne s'aiment pas et ne se trouvent pas bien.
Mais c'est ce qui rend le livre intéressant.
Donc, il faut le lire. On peut te redemander l'avis à côté.
Alors,
de...
Maria Pia Veladiane, encore une fois, c'est un premier roman. C'est ça qui est à noter aussi, parce qu'une grande qualité, La vie à côté, chez Stock.
Merci. Aussi prenant.
Oui, toujours dans le Tidalmag avec Jean-Philippe de Peretti qui pose un instrument pour venir nous rejoindre.
Mais on peut lui poser la question de Dominique de l'association qui...
Oui, alors avant l'association, si vous permettez, oui. Titane, c'est un instrument qui est très proche du luth.
Du sistre.
Le luth, c'est autre chose.
Oui, c'est une autre organo.
C'est une autre, d'accord.
C'est une autre d'accord. conception de l'instrument. Non, ça, c'est les sistres.
D'accord. Alors,
des sistres.
Oui.
Et vous venez de jouer.
Alors, c'est une composition personnelle qui sera dans le disque du fameux quatuor à jam qui s'appelle Meridiani numéro 2. C'est une danse sous forme de. On peut le danser sous forme d'un rondo. D'un branle plutôt. D'un branle. Oui, c'est plutôt un branle comme danse.
En 2009, vous créez votre association.
Oui.
On va vous laisser le soin de donner son nom avec peut-être l'accent.
Sonny County d'Arotuli.
Alors, Arotuli, c'est quoi ?
Arotuli, c'est un lieu dit dans le maquis corse, dans le sud de la Corse. C'est la terre de mes ancêtres. Voilà. Et Arotuli, c'est un mot qui vient de l'argot, qui vient de l'air utile, aria, l'air de rassemblement. Pour cultiver ou pour se rencontrer, pour se fédérer, pour voilà, faire la fête.
Alors, quel est le but de cette association ?
Au départ, le but, c'était essentiellement de faire venir en Orisère la culture méditerranéenne que j'affectionne. Étant donné que je me suis retrouvé un petit peu seul, c'est pas trop ce qui se pratique vraiment dans la région. Donc je cherchais un petit peu les musiques de mes origines, le corse, flamenco, méditerranéen au sens général. Donc j'ai créé une petite structure et puis au départ c'était essentiellement du chant corse. Il y a eu cet intérêt assez surprenant des gens de l'Isère hein, à vraiment répondre présent à tous les stages. Donc on s'est posé quand même la question pourquoi, on n'a toujours pas vraiment la réponse. Mais il y a vraiment cet engouement, cet intérêt, cette curiosité. Donc de fil en aiguille, on a aussi créé d'autres thèmes comme les chants sardes bientôt, un petit peu de chants italiens, et puis on a élargi un petit peu le spectre sur la musique arabo-andalouse, le chant flamenco, voilà.
Il y a combien de personnes dans cette association ?
Très peu au sens d'une association, étant donné qu'il y a à peu près 25 adhérents qui font le peu d'ateliers qu'il y a, c'est-à-dire... un atelier le jeudi sur les polyphonies corses et des régions françaises. Un petit atelier sur la langue corse depuis cette année. Et un petit atelier aussi sur la pratique du luth oriental à l'Oud. Voilà. Donc ces adhérents gravitent autour de ces trois ateliers. Pourquoi peu et pourquoi c'est pas notre leitmotiv aussi ? Parce que tous les thèmes qui sont proposés par l'association n'intéressent pas tout. Les adhérents. Donc souvent, c'est des gens qui s'inscrivent à des stages ou des masterclass et qui reviennent pas forcément régulièrement et qui même habitent loin de la région du Nord-Isère. Ils viennent de Paris, ils viennent de Suisse, ils viennent de Belgique, ils viennent des Pyrénées-Orientales, de Corse aussi, il faut bien le dire. Voilà.
Est-ce qu'il faut une voix particulière pour arriver à chanter ?
Non, il faut savoir chanter juste ou en tout cas entendre les bons sons. Après, la voix particulière, bien sûr qu'un chanteur corse a une voix particulière. Oui. Le chant d'une traditionnelle a aussi ses particularités. Ça se travaille un petit peu, mais ça, c'est presque inné au départ. C'est-à-dire qu'on entend des sons, on les reproduit naturellement. Voilà. Alors l'atelier du jeudi n'a pas la prétention d'arriver à ce même niveau de qualité esthétique, mais le but c'est quand même de faire connaître les amateurs ce chant, leur faire sentir les résonances qu'il peut y avoir entre deux voix, entre trois voix, entre des voix d'hommes, des voix de femmes aussi. On peut mixer aussi des voix, c'est un peu plus dur, mais on y arrive. Voilà, c'est l'idée avant tout, c'est de faire découvrir avec nos petits moyens cette culture, cette tradition.
Et où se trouve ce lieu ?
À Mosa, le hameau agricole Mosa, qui fait partie de Bourgoin-Jallieu, bien sûr, et qui s'appelle Mozas, M-O-Z-A-S.
Alors, vous nous avez parlé des ateliers, vous avez parlé également des masterclass, quelle différence ?
Ah, il y en a, une petite, à savoir que le masterclass, on invite un maître, d'un chant particulier. Voilà, donc c'est le stage amélioré et plus, quoi. Et là, on est un peu plus exigeant dans le niveau aussi. On ne fait pas de sélection, on prend tout niveau, mais on est exigeant dans l'intensité du travail.
Voilà. Et quand vous organisez une formation, un stage sur le lutte orientale, le oud, on a affaire dans notre région à des gens qui pratiquent le oud. Ça paraît incroyable.
En Isère, oui.
En Isère.
Pas en Haute-Isère.
En Isère.
Mais en Isère, ah, effectivement. Ouais. Enfin, pas pour le moment, en tout cas, qui se sont manifestés. Il y en a bien eu un ou deux qui ont appelé, mais qui hésitent encore. Il y a cet intérêt, cette curiosité. Puis les sonorités interpellent. Je pense que c'est des instruments qui sont chantants, comme la voix, qui ont une sonorité un peu mystérieuse aussi, qui séduisent assez les hommes et les femmes aussi.
Alors, en Corse, on joue des instruments, on chante, on danse aussi. Y a-t-il des stages de danse ?
Oui, on danse en Corse. Pour le moment, on n'est pas arrivé à structurer un vrai stage de danse. On allie musique et instruments, mais pas la danse encore. Y a encore beaucoup de points d'interrogation autour de la danse corse, de tradition en tout cas.
Parce que là aussi, parce qu'elle est moins connue, elle est méconnue ou elle est...
Parce que déjà, personnellement, je la connais peu. Tout ce que j'ai vu pratiquer, c'est des quadrilles. Mais quadrilles, on sait bien qu'il n'est pas corse. Sinon, des valses, des mazurkas, des polkas. Bon, c'est un répertoire de danse française ou européenne. Il y a un peu la tarentelle aussi, mais ce n'est pas une danse corse. Et il y a la mauresque, qui est une danse guerrière. Alors, autour de la mauresque, il y a toute une histoire, une légende, une énigme. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Là, on peut.
C'est le cas.
C'est le cas, effectivement.
Couleur FM 97.1, avec notre invité Jean-Philippe de Peretti, que nous allons écouter à l'instant.
Parla più di mesi, nemmeno di settimane. Si antipa il paese, a classe parti domani. Si antipa il paese, a classe parti domani. Ogni la meninina, pide una macetta in mano. E fa marcia stu zumeri, occhi va via troppo piano. E fa marcia stu zumeri, occhi va via troppo piano. Una stretta di un podiolo, noi giunchiamo a 33. 33 di la scatola, tricche tra che tu si fora, 33 di la scatola, tricche tra che tu si fora. Marionceda, marionceda, fatti ricci e fatti bella, Gdzinam denem universium, a vera la zita deda. Oggi sono i marinari, chi fanno la zintineda. Cagna. Tu mi guardi la marina e ti guardo la montagna. Tu mi guardi la marina e tu guardo la montagna. Tu mi guardi la marina e ti guardo la montagna. Tu mi guardi la marina e ti guardo la montagna.
Délice. Oui, merci Jean-Philippe
Peretti. Merci.
Et justement, nous venons d'applaudir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre public ?
Alors, je ne le connais pas très bien non plus. Hein. Je le découvre à chaque fois. Je suis assez étonné. C'est un public de moyennement jeune quand même, il faut bien dire. Déjà un petit peu comme moi, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, voire plus, qui s'intéresse à ces traditions et voir aux émotions que ça dégage aussi, que ça procure. Peut-être que ça leur procure aussi des souvenirs, j'ai bien l'impression. Donc voilà, mais dans les stages, il y a depuis peu des jeunes qui s'inscrivent, qui ont 20, 21 ans, qui s'intéressent aussi au chant traditionnel. Donc c'est encourageant. Voilà.
Alors, vous avez parlé dans vos activités de conférences. Vous me donnez des conférences ?
Oui, ça nous arrive... Malgré tout, parce qu'il y a quelques demandes et on hésite beaucoup parce qu'on se dit est-ce qu'on est des référents, est-ce qu'on peut en parler nous vraiment. Mais bon, quand on recadre un petit peu le débat et quand on explique que, voilà, ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas surtout, ça permet effectivement d'entretenir un échange constructif toujours. Et la prochaine conférence que je fais personnellement, c'est au Conservatoire de Bourgoin-Jallieu le 12 juin, autour des chants et musiques de la tradition orale corse.
Dans votre recherche musicale, est-ce que est importante la rencontre avec d'autres musiciens ? Je pense particulièrement à des musiciens italiens, par exemple, ou espagnols, ou...
C'est vital. C'est vital. Les échanges nourrissent les uns les autres et on est construit d'échanges. Hein. On peut pas travailler par ordinateur ou par filtre interposé. Ça marche pas. La musique, c'est avant tout la relation humaine. Hein. Et pour moi, c'est vital. Oui, bien sûr.
On peut parler également du futur. Quels sont vos projets en dehors donc de cette conférence, on rappelle, le 12 juin.
Écoutez, alors il y a quelques projets divers et variés, on va dire. On va commencer par la sortie prochaine d'un CD qui est apparemment attendu par notre public, qui est le CD du Quatuor à Jam. Prévu pour fin juin, juillet ou début septembre, à voir, mais en tout cas en 2014. Voilà. Ensuite, on a un projet un peu plus d'envergure, un peu plus longue aussi à moyen terme sur la restitution de chants de la tradition médiévale du Nord-Isère. Essentiellement des chants liturgiques, puisque ce qu'on a collecté en tout cas par trace écrite de l'époque, c'est des chants grégoriens en notation carrée, qu'on est en train de réhabiliter et puis de réarranger à plusieurs voix avec le chœur d'hommes à Rautoli Fidelis. Voilà, un chœur d'hommes de voix égale pour restituer cette polyphonie partant du chant grégorien qui est le chant ou un chant des origines en tout cas.
Parce que vous considérez que ce chant a encore, je vais dire, une raison d'être entendu, réentendu ou réinterprété.
Ben, il a deux raisons, en fait. Il a sa raison d'être des origines, qui est le fondement pour moi de beaucoup de musique actuelle. Sans qu'on le sache, toutes nos musiques sont structurées un petit peu au travers du chant grégorien et de ses modes. Et puis, deuxièmement, il a aussi sa raison d'être de réapparaître dans un contexte, on va dire, de tradition rurale et locale, à savoir qu'on a un patrimoine matériel visible, mais on n'a plus ce patrimoine immatériel au travers de ces chants. Donc l'idée forte, c'est de faire la conjonction des deux et de restituer ces chants dans les lieux où ils ont été pratiqués il y a quelques siècles. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait un projet de CD ?
Ça sera certainement un enregistrement live, comme on appelle maintenant, en direct, dans un des lieux de la région, peut-être l'abbatiale de Saint-Chef, oui, qui est en tout cas montré du doigt.
Et où se trouvent déjà
des fresques.
Des fresques, voilà, je cherchais.
Tout à fait.
Et alors, l'abbatiale de Saint-Chef, l'événement, c'est quand ? Vous avez déjà commencé en partie ?
Oui.
Si je ne me trompe, parce qu'on dirait que vous faites ça en plusieurs parties.
Il y a effectivement, c'est un événement sur 2 ans, un projet qui est sur 2 ans, un premier projet sur 2 ans, où l'idée, c'est sur ces 2 années de reconstituer une messe pour le saint qui a construit l'abbatiale et tout le fief autour, qui s'appelait Sainte-Dère, hein, partant des manuscrits qu'on a retrouvés, de l'hymne à Sainte-Dère aussi qu'on a pu retrouver. Voilà, donc l'idée aussi, c'est une création contemporaine, donc c'est autant sur la base de vieux chants manuscrits que de créations actuelles issues de ces manuscrits. Et c'est une création puisqu'on va rajouter au plein chant, qui est le chant grégorien, plusieurs voix différentes en écriture de contrepoint pour créer une vraie polyphonie à 3-4 voix, en tissant ce chemin un petit peu directeur entre ce chant des origines et le chant corse quelque part, puisque ce chant corse vient aussi profondément du chant grégorien. Pas que, mais... sa base, sa structure en tout cas, c'est ce chant. Le plein chant corse, c'est à la base du chant grégorien.
Mais quand je vous écoute, puis je, à la réflexion, parlant de cet intérêt que le public a en Isère, dans le Nord Isère, mais il est vrai qu'il y a toute une période où on a été le passage vers l'Italie, et l'Italie, donc on a été traversé régulièrement par ce pays, en fait, et
par sa tradition, peut-être liturgique aussi. Et c'est aussi, bien sûr, un des éléments à prendre en compte, pas que le seul, mais un des éléments à prendre en compte dans la tradition.
Alors, une question comme ça. Avez-vous fait des concerts dans un monastère, dans des lieux comme ça, où il y avait une certaine résonance, hein, où les voix prenaient encore plus, peut-être, d'espace ?
On cherche effectivement des lieux dont l'acoustique est naturelle, des lieux qui ont aussi une histoire, une âme, puisque vous l'avez peut-être compris, ces chants ne peuvent pas, pour certains, se chanter n'importe où, n'importe comment. Donc la plupart du temps, les lieux de prédilection, c'est des chapelles, des églises, des abbatiales, les monastères pas encore, mais j'en connais pas dans la région. Mais oui, mais ça peut être aussi des fermes, ça peut être des endroits vraiment liés à la terre, hein, et aux traditions des habitants qui gravitent autour de ces monuments historiques. Tout est relié quelque part. Le chant n'est pas déconnecté de sa raison d'être dans ces lieux.
Et du patrimoine.
Et du patrimoine, voilà. Oui, c'est presque naturel de le faire dans ce sens-là. Oui. c'est beaucoup plus délicat et on évite de le faire sur une scène même amplifiée, même dans un joli décor, mais parce qu'on perd l'âme. Le fait d'avoir des micros, on perd la sonorité naturelle, parce que la sonorité naturelle, elle n'est pas directement dans la voix, elle est dans tout ce qui se passe autour. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas, on a un peu du mal des fois à chanter avec des micros.
Oui, c'est une question de vibration aussi,
oui,
c'est
voilà.
Ça. Hein.
Oui, tout à fait.
Et quels sont vos prochains concerts ?
Alors, on a aussi la chance, et j'affectionne beaucoup cette idée, de faire des concerts à domicile dans des comités un peu limités. J'aime pas le mot privé, mais de proximité, voilà. Ce qu'on aime beaucoup, c'est faire un concert comme si on était dans un salon à la maison avec des amis, où on partage lors du concert même des anecdotes. Voilà, c'est des concerts que j'appelle très vivants et proches du public, proches des gens que l'on ne connaît pas au départ, mais qu'on apprend aussi à connaître et à découvrir. Donc c'est un enrichissement mutuel. Nous, on donne ce que l'on peut de notre musique, de nos sentiments musicaux. Et en retour, on a aussi cette impression directe qui souvent nous manque quand on part d'un concert où les gens n'osent pas venir nous parler ou nous dire bonjour. Voilà. Donc c'est très important. Donc le prochain concert, c'est 1er mars. Dans une grange, dans une vieille maison réadaptée, une ancienne grange, la grange des Ailles, je ne sais pas si je prononce bien, à Mérier, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Mais les places sont très limitées puisque la jauge est de 49 personnes.
Alors, vous parlez aussi de ces soirées. Je pense que c'est aussi proche des veillées, proche un peu de la tradition d'antan aussi, où on se réunissait pour chanter.
Voilà, naturellement, c'est vrai, c'est tout à fait cette idée que j'affectionne beaucoup et qui nous manque quelque part et qu'on a perdu du fait de notre vie actuelle ou de l'économie actuelle, en tout cas hors des villages ou hors de la proximité des voisins ou des gens. Mais à l'époque, pas si longtemps que ça encore, il y avait des veillées. Sans beaucoup de moyens, on faisait des soirées magnifiques où tout le monde apportait un petit peu sa richesse culturelle et culinaire aussi. Et on partageait tout sur la table. Et c'était des veillées qui n'en finissaient pas. Et c'est là que, quelque part, se transmettaient aussi ces chants. Voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression que le travail que vous faites ici, dans cette région, d'autres que vous le font ailleurs et que cette envie de retrouver tout un patrimoine culturel, mais local, est une envie relativement partagée ?
Oui, oui, les associations comme la nôtre existent, même il y en a d'autres en Isère, sur d'autres répertoires. Hein. Je vais citer le folk des Terres Froides, par exemple, que vous devez connaître, qui est patrimoine ici, qui fait aussi un gros travail sur le rigaudon, les danses, et puis toute la tradition musicale française, les chants aussi. Je pense qu'en France, oui, il y a une forte tradition, en tout cas le rôner un petit peu, cette envie de faire connaître ce patrimoine, cette richesse, tout à fait.
Nous sommes obligés de nous quitter. Est-ce qu'on peut rappeler soit votre site ou un point de contact ?
Oui, bien sûr. Alors, le site, quand il fonctionne et qu'il n'est pas piraté, s'appelle arautoli.europe, donc http://arautoli.eu/europe, et le mail de contact, c'est arautoli@gmail.com.
Et si vous avez tout perdu, vous envoyez un mail à Radio Couleur FM, contact, et on fera suivre. Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, merci
de
à vous.
C'est
à vous
un bonheur
de m'avoir invité.
Merci, Dominique.
Merci, Zitane.
Merci, Dan, et puis merci, Laurent. À très très bientôt
et à bientôt
et à vous suivre.
Merci beaucoup, bonne soirée, bonne azère.